Bonjour, bienvenue dans le podcast Communication de campagne. Je suis Gaëlle Lettonnet, sa fondatrice. On se retrouve une fois par mois pour parler de ruralité. Comment faire de la ruralité un allié de développement ? Développement économique, mais aussi social, sociétal, environnemental et culturel. Hors des grandes villes, des grandes agglomérations. Pour cela, je vais à la rencontre de celles et ceux qui font de la ruralité une force. Ensemble, on aborde les solutions pour créer du lien, désenclaver pour faire société. Mon intention avec ce podcast est de découvrir des réalisations inspirantes qui ont fait du territoire rural un facteur clé de leur succès. Je les interroge sur l'angle de la communication, qui fait partie des conditions essentielles pour la réussite d'un projet. Si tu apprécies ma démarche, tu peux en parler autour de toi, partager, écrire un commentaire ou donner une note. Si tu veux me contacter, écris-moi à comdecampagne@gmail.com. La crise du Covid que nous avons connue en 2020 et 2021 a provoqué des remises en question sur nos modes de vie ainsi que sur le travail. L'immobilier autour des grandes agglomérations a vu ses prix de vente s'envoler, surtout les maisons avec un extérieur. Les citadins ont eu envie de verdure, quitte à allonger leur temps domicile-travail. Le développement du télétravail a d'ailleurs facilité cette tendance. Le nombre de créations d'entreprises a également fortement augmenté, selon les chiffres de l'INSEE. ESSA, entreprise du secteur de l'économie sociale et solidaire, a pour objet d'accompagner les porteurs de projets de création d'entreprises. Située en milieu rural, rayonnant sur le département de l'Ain, a-t-elle constaté à son niveau cet engouement soudain pour la campagne ? Quels avantages ? Quelles spécificités ? Quels freins aussi possède la création d'entreprises en milieu rural ? Comment ESSA y répond ? Xavier Ravaux est co-gérant avec Nathalie Lambert de ESSA. Je rencontre un homme passionné par l'atelier partagé pour les artisans qu'il a fondé, l'Atelien. Après quelques dernières recommandations données à un usager de l'atelier, il s'assoit enfin et prend le micro. Tranquille, il répond à mes questions patiemment, avec calme, posément, comme s'il avait déjà mûrement réfléchi au sujet que je lui soumets. Une fois l'entretien terminé, je repars avec une liste d'une dizaine de contacts à solliciter de sa part. Enthousiaste et passionné, Xavier Ravaux. Place à ce nouvel épisode. C'est maintenant. Allez. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Plutôt bien, merci.
Alors avant de démarrer, j'aimerais que tu nous décrives l'endroit dans lequel nous sommes.
Actuellement, en fait, nous sommes dans un centre de formation pour adultes, l'AFPA, à Bourg-en-Bresse, qui a ouvert ses portes aux différents acteurs du territoire pour créer une synergie avec d'autres acteurs, dont ESSA, qui permet de promouvoir l'entrepreneuriat, d'accompagner dans l'entrepreneuriat. Et on est dans les anciens bâtiments de formation de Patrie et Peintre.
Alors, on va maintenant s'intéresser à ESSA, qui est un jeu de mots entre ESS, Économie sociale et solidaire, et 1, le département dans lequel nous sommes. Est-ce que tu peux nous présenter la structure ?
L'objectif de la coopérative d'activité et d'emploi est de permettre à des gens qui veulent se lancer dans une activité entrepreneuriale de ne plus le faire seul et surtout de pouvoir être accompagné aussi bien sur des aspects administratifs que sur des aspects de développement et que sur des aspects de co-apprentissage, de partage avec d'autres entrepreneurs. Donc c'est vraiment comment faire ensemble tout en étant seul dans son activité, mais pas tout seul, parce qu'on a d'autres personnes qui sont là pour nous soutenir, pour nous pousser et pour nous aider à avancer.
Il me semble qu'il y a également une mutualisation de services support, comme la comptabilité.
Oui, tout à fait. Dans le soutien qu'on a pour les entrepreneurs et dans l'accompagnement qu'on a, une des choses qui est compliquée quand on se lance dans cet entrepreneuriat, c'est savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on mette sur les feuilles de paye, quel type de TVA on doit mettre, quelle fiscalité on est assujetti, sur les devis, comment est-ce qu'on remplit les devis, quelles sont les données importantes à mettre dessus. Et c'est tout cet accompagnement-là qu'on apporte, donc un accompagnement administratif, fiscal, social, juridique, et toutes ces questions-là qui sont abordées et qui permettent d'avancer avec d'autres par le partage d'expérience et avec les personnes structures qu'on a dans l'accompagnement et dans le parcours d'accompagnement qu'on propose.
Je crois savoir également que les chercheurs d'emploi peuvent signer un contrat CAP leur permettant de tester leur idée avant de se lancer, soit comme indépendant, soit comme salarié d'Essaim.
Tout à fait, le contrat CAP. CAP, c'est pour contrat d'appui à l'entrepreneuriat. Et ce contrat CAP permet d'accéder à un CIRET, donc d'accéder à un statut juridique, de pouvoir faire des factures, de pouvoir faire des devis, de pouvoir acheter du matériel. Et ça, sans avoir un impact direct sur les aides qu'on peut avoir, type RSA, type chômage. Et du coup, pouvoir, pendant toute cette période qu'on a, tester l'activité, créer une trésorerie. Et à partir du moment où on a une trésorerie assez importante, soit lancer son activité en individuel, en entreprise ou en société, ou alors le faire en restant dans la coopérative d'activité et d'emploi et en devenant salarié de sa propre activité.
D'accord, donc c'est vraiment une formule plutôt confortable pour tester son idée dans de bonnes conditions et en étant accompagné et avec une communauté d'entrepreneurs autour de soi.
C'est exactement ça le confort en fait de ce statut. Contrairement à l'entrepreneur où on peut toujours aller chercher des aides, des accompagnements, des coachings, là c'est directement inclus dedans et on a un vrai statut social de protection parce que si on commence à faire un chiffre d'affaires assez conséquent, on peut vraiment devenir salarié et avec tous les avantages du salariat. C'est pas non plus l'alpha et l'oméga de l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose d'exceptionnel et qui supplante tout. Il y a forcément des coûts liés à ce statut, parce que quand on est salarié de son activité, on va forcément payer des charges sociales, mais ça nous permet aussi d'avoir une sécurité sociale, d'avoir la cotisation pour le chômage et de pouvoir avancer. Et du coup, demain, quand on va se lancer dans une vraie aventure entrepreneuriale, je mets des guillemets dedans parce que ça reste une aventure entrepreneuriale quelle qu'elle soit au départ, mais si on se lance seul en entreprise ou en société, on aura déjà appréhendé toutes ces problématiques-là et on ne sera pas démuni en se lançant et en changeant de statut juridique avec l'évolution de l'entreprise.
Peux-tu me dire si Essaim a des partenaires, des financeurs qui soutiennent la coopérative ?
Bien sûr, Essaim fonctionnerait jamais seul, notamment dans un milieu rural dans lequel on est. Il fonctionne parce qu'on a un réseau de partenaires avec qui on échange régulièrement, avec qui on co-apprend, mais aussi avec qui on échange les parcours d'accompagnement entrepreneurial. On fait partie d'un dispositif qui s'appelle la Fabrique des Possibles, dans lesquels la GLCA intervient, France Active qui est un financeur solidaire, Ronalpia qui fait de l'incubation dans l'économie sociale et solidaire, BGE qui fait de l'accompagnement entrepreneurial. Donc ça, c'est vraiment des gens avec qui on travaille au quotidien et on fait les parcours d'accompagnement pour les entrepreneurs de notre territoire. Et on a aussi des gens qui nous aident financièrement. On a notamment le département qui nous aide dans le cas du développement économique, leurs compétences qui restent au département. Et l'agglomération de Bourg-en-Bresse qui nous accompagne. On a également l'agglomération de Haut-Bugey, agglomération, parce qu'on en rayonne sur une grande partie du département de l'Ain. Et aussi, on a des fonds qui viennent du Fonds social européen, le FSE.
Donc, un grand nombre de financeurs qui apportent leur soutien à cette structure.
Effectivement, un grand nombre de financeurs, mais en fait, le plus grand nombre de financeurs qui soutient la structure, ça reste les entrepreneurs en développant leur activité, en faisant leur chiffre d'affaires qui permettent de faire vivre la structure. Et c'est ça aussi qui permet de développer, parce qu'on est bien sûr une entreprise partagée, une entreprise mutualisée, où tous ces frais de structure sont partagés entre les personnes. Et c'est pour ça qu'on arrive à y bénéficier à ces coûts assez modiques.
Alors, parlons des porteurs de projets. Combien sont-ils aujourd'hui au sein de la structure Essaim ?
Aujourd'hui, il y a plus de 100 entrepreneurs. Donc, 100 entrepreneurs, c'est des personnes qu'on a en contrat CAP, qu'on a pu le dire tout à l'heure, des personnes qui sont salariées, qui du coup ont réussi à générer assez de chiffre d'affaires pour pouvoir se salarier, et des personnes qui sont même devenues associées, donc qui sont salariées et associées de la structure. Donc tout ça, ça fait plus de 100 personnes et avec un chiffre d'affaires qui représente aujourd'hui 1,2 million.
Xavier, peux-tu nous dire dans quel domaine les porteurs de projets souhaitent tester leur idée ?
Essaim est une coopérative d'activité d'emploi qu'on appelle généraliste. Certaines coopératives d'activités d'emploi sont sectorisées. Elles sont dédiées à des domaines d'activité, le bâtiment, le spectacle, l'alimentaire, la couture. On peut avoir des choses très spécialisées. Nous, on est généraliste, donc ça veut dire que la seule chose qui va nous limiter, c'est ce que nos assurances acceptent d'assurer derrière. Mais factuellement, on a des gens dans le conseil, dans l'informatique, dans le design, dans la conception de produits, dans la fabrication de produits, dans l'alimentaire. On est assez divers.
Les porteurs de projets sont-ils plutôt des hommes ou plutôt des femmes, ou il n'y a pas forcément un profil type ?
Alors, je dirais pas qu'il y ait des profils types, mais dans les faits, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et historiquement, avec nos partenaires, les personnes qui vont se faire le plus accompagner dans la création d'entreprises ou dans l'entrepreneuriat au sens large du terme sont plus souvent des femmes que des hommes. Mais il faut bien se rappeler que une structure qui se fait accompagner a 2 à 3 fois plus de chances de survie après 3 ans d'existence qu'une structure qui ne s'est pas fait accompagner. Donc globalement, on peut en déduire que les femmes ont plus souvent des entreprises qui tiennent longtemps que les hommes, parce qu'elles se font plus accompagner que les hommes.
J'ai pu voir sur le site de l'INSEE qu'en 2022, le nombre de créations d'entreprises en France avait atteint un record presque inégalé, mais que depuis, le rythme de création est en recul. Est-ce que chez Essaim, on constate également un peu moins de sollicitations de la part de porteurs de projets ?
Il faut se rappeler que 2022, c'est quand même une année particulière. On est encore en plein dans cette crise de Covid. Beaucoup de gens ont été dans des situations précaires ou des situations de chômage partiel, d'activité partielle. Et donc du coup, beaucoup de gens se sont lancés, mais pas forcément pour réellement créer une entreprise. En vrai, c'était pour tester quelque chose, c'était presque pour s'occuper, j'ai envie de dire. Des gens qui étaient vraiment dans une démarche entrepreneuriale et avec une vraie posture entrepreneuriale, j'ai pas un recul assez important pour arriver à le dire, mais on n'a pas eu beaucoup moins ou beaucoup plus de choses. On a une activité qui est toujours soutenue, qui est toujours importante. On a baissé le nombre d'entrepreneurs parce qu'en fait, on s'est aussi rendu compte que certains entrepreneurs faisaient vivoter leur structure. Et nous, notre rôle d'accompagnateur, c'est aussi à un moment donné de leur dire il faut qu'on arrête parce que c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour nous. Et il faut rentrer dans cette phase de deuil. On accompagne aussi à ça. Mais globalement, on a toujours du monde qui vient, on a toujours des demandes, on a toujours plusieurs caps et contrats CES qui sont signés par mois et par an.
J'avais envie de te demander si tu avais remarqué des spécificités liées à la ruralité pour entreprendre.
Oui, il y a forcément des spécificités parce que la zone de chalandise, le marché potentiel n'est pas le même. Si on fait quelque chose au cœur de la métropole de Lyon, on va avoir des zones de chalandise très courtes, on va avoir une quantité de clients potentiel qui est très importante. Donc une bonne communication, j'ai presque envie de dire, va suffire à partir du moment que l'idée est cohérente et a été construite. Dans la ruralité, c'est plus compliqué, mais c'est plus enrichissant parce que les zones de chalandise sont plus grandes, parce que le nombre de personnes est moins important. Donc il faut plus qu'on travaille sur de la récurrence que sur du one shot. Il faut plus qu'on travaille sur de l'accompagnement que sur de la vente basique. Donc il y a forcément des spécificités et il y a forcément des adaptations. Quelqu'un qui va avoir un magasin qui fonctionne parfaitement dans une grande métropole ne peut pas dupliquer ça dans un milieu rural. Mais par contre, va pouvoir construire d'autres choses et va pouvoir construire une autre relation et tisser d'autres liens qu'il ne pourra pas le faire dans des grandes villes.
Est-ce qu'on peut dire que cette activité peut également être vecteur de liens et de rapprochement entre les populations qui vivent en général de manière éloignée les unes des autres?
On le voit bien aujourd'hui dans tous les petits villages. Tous les villages se battent pour ce qu'on appelle le dernier commerce ou alors le premier dernier commerce pour les villages qui relancent des activités. Et ces activités in situ, donc dans la ruralité, ces vecteurs de vie, ces vecteurs d'échange, ces vecteurs de partage, donc plus qu'une rentabilité et un niveau de vie, en fait, c'est une qualité de vie qu'on crée et c'est un échange humain, c'est un partage qui n'est pas le même. Alors, peut-être qu'on peut gagner des milliers d'euros en étant dans une ville. Dans une ruralité, on gagnera peut-être que 1 millier, 2 milliers d'euros. mais par contre, on aura une qualité de vie et on permettra aux gens d'avoir une qualité de vie qui sera complètement différente.
Je rebondis sur la qualité de vie. Est-ce que justement, après la crise du Covid, il y a eu un afflux de souhaits de créer son activité? Est-ce qu'il y a eu un accroissement de porteurs de projets souhaitant s'installer en zone rurale pour sortir de la ville et avoir de l'espace et avoir une... démarrer une nouvelle vie justement dans un lieu plus agréable à vivre?
J'ai pas l'impression. Je pense qu'il y a des gens qui ont voulu vivre en ruralité mais qui ont envie de garder leur niveau de vie, qui ont eu envie de garder leur parcours de vie. Et en fait, les gens font de plus en plus de kilomètres. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de déplacements, que les déplacements sont de plus en plus importants, de plus en plus longs. On le voit sur la ville de Bourg-en-Bresse, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on est à 2h05 du cœur de Paris et de plus en plus de monde se sont arrivés à faire des transports Bourg-Paris tous les jours. Et en fait, il faut presque mieux habiter à Bourg pour habiter et travailler au cœur de Paris plutôt que d'être à la Courneuve et se prendre le RER ou les 4 heures de trajet à faire. Parce que c'est presque plus compliqué d'arriver au centre de Paris de la Courneuve que de Bourg. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte de ça et qui sont venus profiter de ça, mais qui ne lancent pas leur activité in situ.
Alors je précise que les 2h30 se font en TGV.
Bien évidemment.
Au départ de Bourg, en Bresse. Et on croise les doigts pour que ça continue comme ça, même si les gens ne créent pas d'activité en local. Est-ce qu'il y a des domaines d'activité qui ne peuvent s'exercer que dans un environnement rural? Bonne question.
Très bonne question. J'imagine mal des choses qui peuvent se faire qu'en milieu rural, mais en tout cas des choses qui peuvent se faire de façon cohérente et raisonnée qu'en milieu rural, oui. J'imagine mal un élevage bovin en plein milieu d'une ville. Bon, je vais rien apprendre à personne. Par contre, faire des accompagnements sur des pratiques d'activité sportive, elles peuvent se faire en milieu urbain. Mais on ne va pas avoir la même dimension, on ne va pas avoir la même accroche et la même attache territoriale. Donc la transmission, pour moi, ne sera pas la même. J'ai la chance de faire des sports de montagne, des sports de haute montagne. Je vois la différence entre un guide qui est du pays et puis un guide qui vient de la ville et qui fait ça dans le pays. Il y en a un où il partage son émotion, il partage sa vie, et l'autre, il partage son activité. C'est pas la même chose.
Là, on est sur un registre d'histoire, de temps long, de transmission, comme tu le dis. Et effectivement, peut-être qu'on a plus ce sentiment-là en zone rurale que dans une grande ville où les gens se rencontrent, arrivent, partent, il y a plus de mouvement. Et du coup, l'histoire s'écrit différemment.
La notion du temps est complètement différente en ruralité et en ville. On met 5 minutes en ville pour traverser, pour faire plusieurs kilomètres. 5 minutes en ruralité... on est à peine allé voir le voisin. Moi, j'ai presque envie d'exagérer. Donc, la notion du temps est complètement différente. Donc, on s'inscrit dans un temps qui est différent. On n'attend pas 2 minutes pour avoir un métro. On prend une voiture pendant un quart d'heure pour aller acheter du pain. On n'est pas du tout sur la même temporalité. Mais c'est aussi ça qui va faire que les liens vont se tisser différemment. Parce qu'on est obligé de prendre ce temps. Alors qu'en ville, le temps est beaucoup plus entraîné, beaucoup plus entraînant, et la foule nous entraîne dans ce temps-là. Alors qu'en réalité, la foule, encore une fois, j'exagère, mais c'est les vaches. Et les vaches, elles prennent du temps.
On va parler de la communication des saints, dans un premier temps, puis des porteurs de projets également. Comment un saint se fait connaître et comment il promeut son modèle?
J'ai presque envie de dire le vrai challenge des communicants, c'est pas de faire des belles publicités qui passent sur TF1, mais c'est de faire passer des messages, des petites structures dans des milieux ruraux. Parce que les canaux sont beaucoup plus diffus, parce que les interprétations sont beaucoup plus variées, parce que les publics sont beaucoup plus différents. Et donc, en fait, il y a un vrai enjeu de communication. Et la communication, du coup, elle doit se faire sur des canaux qui sont complètement différents. Des réseaux sociaux, du site internet, de la presse locale. Mais quand on parle de presse locale, on va parler de tous les petits journaux. On a le Progrès, on a la Voix de l'Ain, on a le bulletin municipal, les bulletins municipaux. parce que du coup, on va avoir potentiellement sur plusieurs villages. Donc, on a un nombre de canaux qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important. Et donc, du coup, on peut encore plus adapter ces messages suivant les cibles. Donc, on a une notion de segmentation, de ciblage, de positionnement qui peut être hyper travaillée, hyper développée, qui sera beaucoup moins dans des grandes villes où on va être sur des choses de masse. Et donc, du coup, on va le voir toucher sur des discours très, très vides, mais qui résonnent, alors que là, en ruralité, on va plus aller sur des messages profonds qui touchent, mais qui touchent pas dans le sentiment et dans l'émotionnel, mais dans l'action et dans l'acte.
Lorsque les porteurs de projets ou les entrepreneurs sont installés dans des zones à faible densité de population, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour se faire connaître, pour attirer une clientèle, pour arriver à vivre de leur activité?
S'il y avait une solution miracle, on la connaîtrait tous et on pourrait la partager très facilement. Je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle. Après, moi j'aime bien un petit peu la stratégie de l'escargot. On va commencer sur son premier réseau à communiquer, puis on va l'élargir petit à petit, et puis remettre une couche à chaque fois, et à chaque fois pour pouvoir l'élargir au fur et à mesure. Mais l'avantage de ça, c'est qu'on aura tout de suite, sur les premières actions qu'on va avoir, un répondant. Et on aura tout de suite une réaction sur la communication, parce que c'est des gens qui sont proches de nous. Et plus on va pouvoir élargir, du coup moins on aura ce retour sur la communication, mais du coup on aura eu le temps de la travailler de plus en plus et avec de plus en plus de personnes. C'est peut-être une stratégie qui est longue, je l'entends, je le comprends, mais en tout cas, cet impact qui est de tout de suite avoir un retour et de pouvoir adapter le plus rapidement et en limitant au maximum les frais. Parce qu'au départ, la communication, ça peut être un puits sans fond. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises qui faisaient plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. On est incapable de mesurer un résultat de communication. La première personne qui est capable de me sortir le chiffre d'affaires qu'il fait parce qu'il a mis 1 euro de communication, parce qu'il a enlevé 1 euro de communication, je lui tire mon chapeau. Par contre, si on arrive et qu'on commence à lancer des petites activités, on va tout de suite avoir des répondants et on va pouvoir adapter et du coup travailler automatiquement aussi cette notion de segmentation, ciblage, positionnement qui est hyper importante dans les notions de communication qu'il va falloir qu'on développe.
Tu me diras ce que tu en penses, mais je vois aussi un certain intérêt en étant en zone rurale, c'est que souvent on se connaît. On connaît les voisins, on connaît les commerçants, et donc d'une certaine manière on est obligé d'être authentique, d'expliquer ce qu'on fait, de prouver qu'on a de bons produits, d'attirer l'attention. Est-ce que tu penses que ça peut être une force ?
C'est à double tranchant pour moi. Ça peut être une vraie force parce que justement, comme je disais, on a ce retour et on peut rapidement l'avoir. Par contre, dans ces messages de communication, il ne faut pas non plus rentrer que sur de l'émotionnel et sur qui on est nous. Et il faut qu'on arrive à détacher la personne du service. Par contre, il faut qu'on mette notre passion dedans, mais pas notre émotion, parce que notre émotion, elle est personnelle. Et le service qu'on propose, c'est pas notre personne, c'est notre connaissance, c'est notre savoir, c'est notre savoir-faire. Et donc, il faut arriver à séparer ces deux, et c'est très difficile au départ. Mais donc, du coup, de le faire avec des gens qu'on connaît, ça permet d'avoir déjà ce premier retour et d'arriver à jauger, tiens, en fait, il a répondu ça, mais c'est parce qu'il me connaît moi, mais s'il me connaissait pas, comment est-ce que ça serait ? Et donc, du coup, d'arriver avec encore une fois, cette stratégie de l'escargot, de pouvoir tester et d'essayer. Et une fois qu'on commence à avoir des retours qui sont un peu plus intéressants, ou en tout cas qu'on commence à être stable sur sa communication et qu'on se dit les retours qu'on a ne nous rendent pas fébriles, bah là, on va pouvoir commencer à élargir un peu plus. Et là, du coup, investir, parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Si on n'investit pas dans la communication, on ne connaît pas, on peut avoir le meilleur produit du monde, le meilleur marché du monde. Si personne ne nous connaît, on reste dans son garage.
Cela m'évoque aussi une autre interrogation ou une autre réflexion, celle du temps long. On est dans une zone rurale, effectivement. On est plus ou moins connu, même si voilà, on sépare le personnel du professionnel. Mais on imagine qu'on crée une activité pour une longue durée et pas seulement faire un coup ou un one-shot, comme tu disais tout à l'heure. Ça peut être également un argument intéressant pour vendre ses produits ou ses services.
De toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, dans la ruralité, on est obligé de tisser des liens. Et tisser des liens, ça prend du temps. Et peut-être qu'au départ, c'est qu'un fil, et un fil, c'est un euro de chiffre d'affaires. Puis un deuxième fil, c'est un euro, et puis un troisième. Mais au bout d'un moment, on va commencer à développer ça. on est obligé de s'inscrire dans un temps long. Quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit « j'ai 6 mois, dans 6 mois je suis à la rue, j'ai rien, il faut que je fasse du chiffre d'affaires », il ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat en milieu rural. Parce qu'on est obligé de prendre ce temps long et il ne faut pas qu'on prenne des risques personnels quand on se lance dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est une aventure. Et quand on parle d'aventure, c'est pas Walibi. C'est pas on fait la queue, on a notre attraction et on ressort. C'est une aventure. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne le sac à dos, ça veut dire qu'il faut qu'on marche, ça veut dire qu'il faut qu'on préserve notre énergie pour pouvoir avancer. Et on est vraiment dans cette aventure-là, d'autant plus si on est en milieu rural.
Avant de terminer ce podcast, est-ce que tu aurais l'exemple d'un entrepreneur, d'un porteur de projet qui au départ a eu beaucoup de mal à démarrer et qui au final vole de ses propres ailes ou est salarié dessin, mais qui a une réussite plutôt intéressante, exemplaire peut-être, le mot est peut-être un peu fort, mais on peut dire réussi.
Ce que j'ai surtout en tête et en mémoire, c'est plutôt des gens qui ont pu se lancer grâce à la coopérative d'activité et d'emploi. Des gens qui pensaient que c'était inimaginable, des gens qui trouvaient que c'était inaccessible, des gens qui disaient toujours dans leur parcours « non mais ça c'est pas pour moi ». Et qui du coup, à un moment donné, se sont dit « je vais aller voir Essain, je vais partager » et qui se sont en fait retrouvés avec des gens qui en parlaient, avec des gens qui les accompagnent, avec un numéro de téléphone à appeler et dire « bah là, je sais pas quoi faire », avec des moments mensuels où on va pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs et de se dire « en fait, j'y suis arrivé, quoi, j'ai pu le faire ». Et c'est plus ça, moi, que je trouve intéressant, c'est d'aller chercher ces gens qui ont un vrai savoir, une vraie compétence, mais il leur manque le petit truc. Et souvent, en France, en tout cas notamment, on a énormément de choses administratives qui est intéressante parce que ça nous protège, mais qui n'est pas toujours évidente. Et du coup, de pouvoir accompagner ces gens-là qui savent faire, qui ont envie de faire, mais qui ne savent pas quel bout y prendre, bah de pouvoir les accompagner là et faire en sorte qu'ils y arrivent, bah c'est là notre réussite.
Jolie conclusion. J'ai une toute dernière question bonus. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais améliorer pour les porteurs de projets en zone rurale ?
Si j'avais une baguette magique, alors là, il faudrait vraiment qu'elle soit magique. Hein. Mais
on peut tout imaginer.
L'idée, en fait, serait de permettre aux entrepreneurs réellement de tester. Il y a plein de gens qui ont des compétences, qui ont des envies, qui savent faire, qui ont un savoir-faire de fou, mais qui sont bloqués par des contraintes d'entreprise, de métier. Non, mais je ne peux pas lâcher mon métier. Même s'ils ne s'épanouissent pas dedans, même s'ils sont malheureux dans leur métier, ils ne se sentent pas capables de lâcher ça. Et en fait, moi, si j'avais une baguette magique, il faudrait vraiment que j'arrive à enlever ces barrières-là pour que les gens s'éclatent dans leur boulot. Il y a la passion de notre travail, de notre activité, fait qu'on arrive à avancer. Et plus les gens qui travailleront seront passionnés, plus on sera dans une notion de plaisir, d'échange et plus de consommation. Et de se dire, en fait, on va avancer, il faut qu'on mange, il nous faut de l'argent pour manger et c'est pour ça qu'on a lancé notre activité. Mais ils ne seront pas à « je gagne 1500 euros, c'est pas assez, il faut que je trouve un autre boulot pour gagner 1700 euros ah, ». Et puis du coup, il me faut une nouvelle voiture parce que le boulot à 1700 euros, il est un peu trop loin. Et en fait, on ne sera plus sur ces problématiques-là et vraiment donner l'opportunité à ces gens-là de se lancer et de se dire « allez-y et créez vos contraintes ». Et ces contraintes, en fait, on les vit mieux quand c'est nous qui les avons créées. Parce qu'on est obligé d'en avoir des contraintes. Quoi qu'il arrive, on se lance dans l'entrepreneuriat. Je connais des gens qui se disent « moi, je veux travailler tout seul ». On ne travaille jamais tout seul. On travaille avec des clients, on travaille avec des partenaires. Donc, on a des contraintes de clients, des contraintes de partenaires. Mais c'est nous qui les avons choisis et on ne les subit pas. Et donc, du coup, je pense qu'on avance bien mieux dans notre vie à ce moment-là quand on a choisi ces contraintes que quand on les subit.
Choisir plutôt que subir. On restera sur cette idée... En tout cas, c'était vraiment très enrichissant et très intéressant. Je te remercie beaucoup, Xavier, pour ce moment.
Merci à vous.
Et donc, à bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir.
À bientôt, au revoir.
C'est ainsi que ce podcast s'achève. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous donne envie d'en parler autour de vous, de le partager. Rendez-vous dans un mois pour découvrir le prochain épisode. D'ici là, vous pouvez consulter mon site www.glc-com.com/podcast. Ma page est dédiée aux notes, backstage, infos inédites sur ce podcast. À très bientôt.